Seigneur, parce que tu es là et tu désires nous parler. Nous t'ouvrons nouvellement nos cœurs. Ouais, merci Seigneur. Dis-nous ce qui est dans ton cœur. Oui, le Seigneur a quelque chose de prévu. Et même Paul avait une intention avec ces lettres qu'il écrit. Il a encouragé les Philippiens à continuer de marcher sur ce chemin. J'ai trouvé ça tellement positif. Dès la première réunion où nous avons vu que le chemin est en train de monter, nous dirigeons en vue d'un but. Souvent, nous ne prenons l'Évangile que le démarrage. Mais non, l'Évangile est tout le dessein de Dieu. Le plan entier de Dieu. Et il a tant à voir avec nous.
Et
tout ceci, c'est un salut progressif que nous vivons, en fait, comme nous l'avons vu dans l'Épître aux Hébreux 7:21. Il peut nous sauver parfaitement. Il peut sauver parfaitement tous ceux qui s'approchent de lui. Ça veut dire que le Seigneur a commencé quelque chose en nous, comme il est dit dans Philippiens. Et je suis convaincu, dit Paul, je suis persuadé que ce qu'il a commencé en vous, il l'accomplira jusqu'à la fin. D'où se fait-il que Paul ait une telle assurance, une telle conviction? On l'a déjà un peu entendu dans les témoignages. Comment peut-il être convaincu à un tel point? Pourquoi? Parce qu'il a vu que dès le début, ils étaient, comme on peut dire, sur le bon chemin. Ils n'ont pas seulement accepté l'Évangile pour eux et cru à Jésus, mais ils ont toujours, tout de suite, participé activement à l'Évangile. Je pense que ça, c'est une clé. On n'avait pas besoin de leur dire, allez, annoncez l'Évangile, vous devez. Non, d'eux-mêmes, ils ont eu ce désir de participer à la défense, à la confirmation de l'Évangile. Ils étaient là à côté de Paul, c'est merveilleux. Vous voyez Paul et Silas, tu penses qu'ils étaient en tant que solitaires dans un voyage, et là ils sont dans une ville étrangère à Philippe, dans un prison. Mais il y avait des frères, et quand ils sont sortis, il y avait des frères et des sœurs qui étaient là. Et ils étaient là avec eux. Une telle communion pour l'Évangile. J'aimerais lire un verset d'Ésaïe au verset chapitre 9. Simplement pour que nous ayons une vision différente de l'Évangile. Nous sommes tellement souvent limités, pensons que c'est un devoir. Il faut. Je l'ai dans la traduction d'Elberfelder. Donc, chapitre 9, dès le démarrage. Donc, chapitre 9, verset 1. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. N'est-ce pas merveilleux? Ça, c'est l'Évangile. Il existe un Évangile. Une bonne nouvelle. Et quand on continue de lire, je laisse 2-3 versets, et ensuite nous en arrivons au verset 5. Ça, c'est la raison de ces cris d'allégresse. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable. Amen. Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, donnez à l'Empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, et ainsi de suite. N'est-ce pas merveilleux? Ça, c'est l'Évangile. L'Évangile est une personne. Ce que l'ange a annoncé là-bas au berger, c'est qu'un enfant est né. Le Sauveur est né. Et c'est exactement cela qui est écrit dans Ésaïe, qui s'est accompli. Et ça s'est accompli il y a environ 2000 ans. Ça, c'est l'Évangile. Ne serait-ce que ceci, ce fait, c'est quelque chose. Qu'il existe une telle personne comme Jésus, ça, c'est l'évangile. Les gens étaient sans espérance, sans Dieu. Et là, Dieu vient jusque vers les hommes. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire. Dieu vient vers les hommes. Ça, c'est l'évangile. Peu importe où tu commences, c'est l'évangile. Hier, alors que Gert a posé la question, où entend-on parler pour la première fois de l'évangile? En fait, moi, je voulais dire dans Genèse. Ça commence tout devant. L'évangile.
Ta
descendance écrasera la tête du serpent. N'est-ce pas merveilleux? Alléluia. Ça, c'est l'évangile. Nous avons besoin d'avoir une vision, une vue. Et quand nous sommes remplis de l'évangile, comme il a déjà été dit, alors nous n'attendons plus qu'une occasion. Seigneur Jésus. L'évangile, c'est Christ. Romains 1 l'a déjà cité. Nous avons déjà lu ces versets. Le verset 9, ces jours-ci, nous l'avons déjà lu. Dieu est mes témoins. Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils. C'est l'évangile de son Fils. Et acte 11, le verset 20, nous pouvons le lire aussi. Acte 11, verset 20. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Amen. La bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Et qu'est-ce qu'ils annoncent? Le Seigneur Jésus en tant que l'Évangile. Frères et sœurs, ce n'est pas toujours un message extraordinaire.
Ce n'est
pas toujours une parole qui est tellement compréhensible que les gens doivent entendre. Non, ils doivent être mis en contact avec Jésus. Je me souviens, dans ma jeunesse, j'ai été dans une évangélisation. Après, je n'ai fait que discuter avec les gens. Mais je n'avais pas d'intérêt à accepter Jésus. Ils pouvaient discuter avec moi comme ils voulaient. Moi, j'avais mes arguments, j'en avais tout plein. Et un jour, j'étais dans une disposition, un jeune homme me dit, n'aimerais-tu pas apprendre à connaître Jésus? Je lui ai répondu. D'abord, il a posé la question, connais-tu des Jésus? Je lui ai dit non. Et il m'a dit, ne voudrais-tu pas apprendre à le connaître? Et alors, j'ai eu très chaud. Alors, je me suis dit, qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois dire? Si je dis oui ou je dis non? Je pense que je n'ai plus rien dit du tout. Et déjà, il m'a pris de côté et il a commencé à prier avec moi. Il y avait encore une autre personne qui était là et les deux ont prié pour moi 2-3 minutes. Et maintenant, toi aussi prie. Mais alors que les deux ont prié, j'ai remarqué que Jésus est là. Il est la réalité. Ce soir, je ne peux pas passer à côté de lui. Ça, c'est l'Évangile. Ils nous ont encore raconté d'autres choses, ils m'ont donné. Mais ça ne m'a pas touché. Mais depuis ce soir-là, j'ai su que Jésus vivait. Jésus existe, il est ressuscité. Je l'ai rencontré. Et ça, c'est décisif dans l'Évangile. Parfois, nous sommes trop compliqués. Ne serait-ce que donner un conseil qu'on dise Dieu est vivant, on peut croire en lui, que j'ai appris à le connaître. Ne serait-ce que cela, pour les hommes, est parfois déjà quelque chose qui les secoue, qui les réveille. La personne du Seigneur, l'évangile de son Fils. Et ça, ce n'est pas un évangile pauvre, misérable. Et c'est comme l'a dit notre frère de Göppingen, comme il l'a dit, c'est ce sont des richesses. Tu commences dans Colossiens. Tu ne fais pas que lire et comprendre, mais tu lis et tu vois. Et se laisser impressionner par le Seigneur, frères et sœurs. Ça, c'est tellement important. Sinon, nous n'avons rien à dire. Sinon, qu'est-ce que tu vas dire si tu as vécu quelque chose? Quand quelqu'un voyage, là, il peut raconter plein de choses. Et quand nous apprenons à connaître plus le Seigneur, quand nous voyageons avec lui, quand nous le découvrons davantage, frères et sœurs, à tous les jeunes, j'aimerais leur dire qu'ils lisaient dans la parole. Lisez la parole. Et là, il y a des situations, et là, tu touches quelque chose du Seigneur. Et c'est ce qui est quelque chose qui, après encore, deviendra une partie de toi-même. C'est pourquoi c'est juste un appel pour nous. Nous devons plus annoncer l'évangile. C'est pas non plus l'être, la nature de l'Église. Nous n'allons pas bâtir une œuvre d'évangélisation ou créer des écoles d'évangélisation ou des organisations d'évangélisation. Non, c'est pas ça. Mais c'est l'évangile du royaume qui est prêché aujourd'hui. Et le royaume de Dieu a beaucoup à voir avec l'Église. Nous, comme nous l'avons entendu, c'est pas seulement notre sœur qui est un évangile vivant. Mais l'Église, en tant que tout, est l'Évangile vivant. C'est ce que les gens, c'est ce qui va convaincre les gens, les personnes. Il y a une expression, c'est pas seulement chacun pour soi qui combat et qui a une certaine conception de la manière de répandre l'Évangile. Naturellement, Paul a dit, j'aimerais gagner plein de monde par tant de moyens. C'est vraiment important par l'Évangile. Nous avons un temps qui est limité. Et en nous, il y a aussi ce désir que le temps ne soit pas passé en vain, mais que ce temps soit donné au Seigneur, qu'il soit utile au Seigneur, que nous portions du fruit. Demeurons en Christ. Jésus le dit, habite, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Si le sarment ne reste pas attaché au cep et ne porte pas de fruits, c'est-à-dire il s'agit là de porter du fruit. Amen. Seigneur. Je retourne dans 2 Corinthiens 4, le verset 3 et suivant. 2 Corinthiens 4. Verset 3 et suivant. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Dommage, c'est pas le but, en fait, que nous prêchions que l'évangile soit voilé pour certains, mais malheureusement, il en est ainsi. Nous continuons à annoncer l'évangile. Il y en a quelques-uns pour lesquels l'Évangile reste voilé. Nous pouvons prier pour eux. Peut-être que demain, l'Évangile ne sera plus voilé, parce qu'ils ouvrent leur cœur. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'Évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Qu'est-ce que l'Évangile? C'est la lumière de la gloire de Dieu. C'est Christ lui-même. Quand il apparaît aux hommes, quand il rencontre les hommes, ça c'est l'évangile. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Nous prêchons que Christ est le Seigneur. C'est le contenu de l'évangile. Jésus-Christ, avec tout ce qu'il est, avec tout ce qu'il a fait, ce qui signifie pour nous. C'est la raison pour laquelle il est bon de connaître la parole, comme le dit Paul. Je me réjouis vraiment de ce verset à chaque fois, parce qu'il dit dans Éphésiens au chapitre 3, c'est toujours à nouveau comme un nouvel allumage, comme quand on allume une bougie. 3, verset 8. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée. Donc, il se met en dessous de tous les saints. Je suis le moindre de tous les saints, dit-il. Le plus petit. Je suis le moins méritant. Mais, il m'a été donné une grâce merveilleuse. C'est parce que j'ai le droit d'annoncer aux païens les richesses insondables de Christ. C'est une telle grâce. As-tu déjà annoncé l'évangile à quelqu'un? Si tu fais cela, c'est vraiment une grâce. Là, tu es un homme, tu avais peur qu'il va te repousser, qu'il réagira de manière rustre, mais tout d'un coup, il ouvre son cœur. Et tu peux dire encore une phrase en plus. Tu peux peut-être même encore montrer un verset. Tu peux lui dire que tu peux apprendre à connaître Jésus. La journée est comme un salut pour toi. Alors tu sais pourquoi tu vis. Pourquoi je suis là? Tu remarques, mais je vis. Ça n'a rien à faire avec une action, mais c'est une preuve de la vie. Nous, chrétiens, nous avons reçu une vie que nous voulons distribuer. Et tu ne peux pas dire, les autres ont eu ce don, moi je ne l'ai pas. Quand dans Actes, tout a commencé, après qu'ils aient prié pendant 10 jours, dans un lieu, ils sont sortis dans la ville, et ils ont commencé là. Qu'est-ce qui s'est passé? L'esprit vint, et il est dit, ils furent tous, pas certains, remplis du Saint-Esprit, et ils parlaient. Même dans d'autres langues. Ça, c'est un témoignage quand des hommes parlent de Jésus. Ça fait une différence. Ce sera aussi ta vie. Il change ma vie. Quand je parle de Jésus, cela est pour moi un plus grand salut encore pour moi que pour celui à qui je parle. Parce que cela me libère de mes sensations. Comment tu vas? Oh, j'ai tel et tel problème. Oublie cela. Ma vie est insignifiante. Il s'agit ici de l'évangile. Il s'agit de Christ. De ce merveilleux Christ tellement riche. C'est donné à nous ces richesses insondables de Christ. Parfois, je ne savais pas ce que je devais dire, mais quand j'ai commencé à dire, c'est venu tout simplement. Les paroles sont venues. Amen. Seigneur Jésus. Et le contenu de l'évangile, c'est Christ. Il est l'évangile. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ n'est plus cette personne unique qui a vécu à cette époque. Mais aujourd'hui, c'est le Christ qui est agrandi. Vous verrez des choses plus grandes. Qu'est-ce que c'est que ces choses plus grandes? C'est l'Église. Christ et l'Église. Ne fais rien d'autre. N'en rajoute rien à Christ. Dimanche dernier, nous avons un bon message concernant l'Évangile. Et souvent, on a quelque chose, on a Christ plus la loi, par exemple. Plus des choses terrestres. Comme il est dit aussi dans Colossiens. Où il y a le moi qui se rajoute. Il y a du mélange. Tout ce qui n'est pas Christ doit aller à la croix. Et ce qui appartient à Christ, ce n'est que l'Église. Christ et l'Église, oui. Mais pas Christ et la loi. Christ et une autre personne. mais Christ et l'Église. Ça, c'est l'Évangile. C'est le dessein éternel de Dieu. Et les Philippiens étaient vraiment... Là, ils avaient ceci en tête, c'est l'Évangile. Dans Philippiens 1, il est dit, depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui, ils étaient tout de suite participants à cet Évangile. Paul leur annonçait l'Évangile et il s'occupait d'eux. Non, tout de suite, il y a eu une communion de personne à personne. Il a apprécié dès le début cette communion qu'il y a eu entre eux. Il leur a annoncé l'Évangile et de suite, ils ont annoncé l'Évangile avec lui. Et c'est pour ça qu'il a dit qu'il était persuadé que le Seigneur accomplirait son œuvre en eux. Et il y a un verset où il est écrit « Marche, vivre d'une manière digne du Seigneur, de l'Évangile du Seigneur. Menez une vie digne de l'Évangile de Christ. » Ce verset nous montre qu'il doit y avoir quelque chose derrière ce que moi je dis. Oui, il y a certaines personnes qui disent quelque chose et il n'y a, entre guillemets, rien derrière leurs paroles. Donc, il faut que nous ayons une base dans la parole. Nous vivons une vie et dans le passé, par exemple, ces versets sont toujours revenus. Conduisez-vous ou menez une vie. Ça veut dire qu'il ne doit pas avoir une vie double. Aujourd'hui, maintenant, je mets mon, entre guillemets, visage d'église. C'est, voilà la différence. L'église est quelque chose de véritable. Et nous avons Christ dans la réalité. Et c'est pour ça que tu apprendras dans l'église à vivre Christ. Et ton moi, tu apprendras à le renier. Ça fait partie de cela. C'est un exercice actif, journalier. J'aimerais vivre Christ. Paul a dit pour moi, vivre c'est Christ, ou Christ est ma vie. C'est-à-dire que tout ce qu'il a fait, c'était Christ. Ça a été dit dans les réunions témoignages. C'est pas seulement vivre une vie irréprochable. Oui, nous devons mener une vie. Afin que nous n'ayons que personne ne puisse nous reprocher quoi que ce soit, que nous ne devions pas honteux. Nous voulons être irréprochables devant le siège de trône de Christ. Ça, c'est là, oui, c'est important. Mais ici, il y a encore quelque chose d'autre à voir dans ce verset. Il est dit, une vie digne de l'Évangile du Christ, afin soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme. Ceci montre, cette vie est une vie active. Ce n'est pas seulement le fait que j'ai une bonne attitude, que j'ai une bonne manière de vivre. Non, il n'est pas seulement question de ma sanctification personnelle, mais il s'agit ici que nous demeurions fermes dans l'esprit. Et je refais de nouveau les fameux trois cercles concentriques. Voilà un premier cercle que je dessine, un grand, un moyen et un petit. Et tout au milieu, nous savons que là, nous sommes nés de l'esprit, tout au centre. C'est-à-dire, nous sommes rentrés dans le royaume par la nouvelle naissance. Nous sommes un seul esprit avec le Seigneur. Et ici, autour de nous, il y a l'âme, enfin, le cercle du milieu. On a l'âme. Et j'ai trouvé très bien la manière dont Daniel a expliqué. Ça, c'est en fait l'âme déchue qui est notre moi, notre ego. On le voit, aujourd'hui, dans la société, cela est amplifié. Pourquoi ? Parce que la foi diminue. Parce que la conscience de Dieu se perd. Les hommes ne connaissent pas Dieu, de moins en moins. Alors quelque chose d'autre remplace Dieu, c'est le moi. Mais après que nous soyons nés de nouveau, notre âme est changée, elle est transformée. Et ça, c'est l'œuvre du Seigneur, depuis l'esprit. Nous devons d'abord être fermes dans notre esprit. Il y a un verset dans Éphésiens qui nous montre, c'est dans Éphésiens 3, il nous montre que là, nous devons être fortifiés. Au verset 16, Paul prie pour les Éphésiens. L'épître aux Éphésiens parle de l'Église, de cette merveilleuse Église, mais ce qui est nécessaire, c'est afin que nous soyons tous puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur. Il n'est pas dit simplement fortifié à l'homme intérieur, mais il est dit puissamment fortifié dans l'homme intérieur, par son esprit. Ça veut dire, nous devons être fortifiés dans l'esprit. Nous, on essaie toujours de combattre, de lutter d'une même âme. Non, mais il nous faut d'abord être fortifiés dans l'homme intérieur, dans l'esprit. Et on voit comment Paul s'exerce. Il prie pour les saints. Il intercède pour eux, comme on l'a entendu ce matin. Il fait un exercice de se tourner vers l'esprit. Si notre esprit est réveillé, alors notre responsabilité, c'est que nous nous tournions vers l'esprit, que nous soyons actifs dans notre esprit, de venir dans notre esprit. Et c'est aussi le but de la prière, qui n'est pas simplement que Dieu fasse quelque chose pour nous, qui réalise nos vœux, mais la prière est en premier lieu là pour que nous soyons fortifiés dans l'homme intérieur. Que tout soit pas seulement objectif dans l'âme, dans l'esprit, comme le dit Romains 8, mais que dans l'expérience, tu sois en esprit. Puissamment fortifié dans l'homme intérieur. Par l'esprit, le Seigneur fait tout. Par l'esprit, nous accomplirons les conditions de Dieu, tout en esprit. Et là, nous tenons ferme. Il faut que ce soit clair, cela. Nous devons être fermes. Et je viens de suite au deuxième point en ce qui concerne l'esprit. L'esprit, là, n'est pas seulement ta relation personnelle avec le Seigneur, mais ici, il est dit, puissamment fortifié, demeurez ferme dans un même esprit, donc on est dans Philippiens 1, 27, que vous demeuriez ferme dans un même esprit, c'est-à-dire, nous tous, nous y sommes. En fait, c'est toute l'Église à Philippe qui est désignée là. Nous tous, nous demeurons fermes dans un même esprit. Et ça veut dire que nous devons connaître l'esprit. Pour être un, nous devons connaître l'esprit. Il ne s'agit pas simplement d'avoir un bon exposé de la Bible, de pouvoir citer des versets, de citer les relations d'un verset avec l'autre. Ça, ce n'est pas l'esprit. Mais l'esprit, c'est que je touche quelque chose de la réalité. Il y a beaucoup qui ont enseigné ces derniers temps. J'ai écouté pas mal de choses et je me dis, mais parfois, mais qu'est-ce qu'ils poursuivent comme but? Et Paul, avec Paul, c'était pareil. Il y en a même qui ont annoncé l'évangile par esprit de dispute. Mais ça, ce n'est pas l'esprit. En fait, le mot d'esprit n'existe pas dans la parole. C'est par dispute. Et nous devons apprendre à connaître l'esprit, tenir ferme dans l'esprit, être conduit par l'esprit. Amen. Et je prends aussi le parallèle dans Éphésiens 4, le verset parallèle, le verset 1 et suivant. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Marcher d'une manière digne de la vocation. Et en relation avec cela, il parle de l'unité. Il parle de l'unité. Et ici, il s'agit de l'unité de l'Église. Marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Si toi tu es en esprit, moi je suis en esprit, alors nous pouvons être un. Un esprit avec le Seigneur, mais aussi un esprit les uns avec les autres. Ça, c'est le témoignage de l'Église. Et ici, dans l'Épître aux Éphésiens, il est dit, vous efforçant, au verset 3, efforçant de conserver l'unité. Luther dit, appliquez-vous. Ça veut dire qu'il y a un effort à faire. Ça doit être important pour toi. Ce n'est pas simplement là, comme par hasard, non. Tu dois collaborer avec le Seigneur. Pour conserver l'unité de l'esprit, ça, ce n'est pas une petite chose, parce qu'il s'agit du témoignage de Dieu. Il ne s'agit pas aujourd'hui d'être un avec tous, tu peux même écrire un livre au sujet de l'unité, et demain, tu fais une division. Tout est possible. Nous avons déjà tant vécu de choses. Les gens peuvent changer. Il ne s'agit pas simplement d'avoir reconnu quelque chose, mais nous sommes vraiment exhortés à nous efforcer de conserver l'unité. Comme je dis, ce n'est pas l'unité d'une pratique. Il ne s'agit pas d'avoir les mêmes formes de réunion dans toutes les églises, non. Il ne s'agit pas de suivre un homme, non plus. Mais c'est l'unité de l'esprit. Sinon, nous volons la gloire au Seigneur. Et il s'agit de conserver cette unité jour après jour. Ça, c'est vraiment un test pour nous de conserver l'unité. Souvent, nous avons l'impression, oui, dans l'Église, il y a quelque chose qui n'est pas comme je me le représentais ou comme cela devrait être. Et on a des vues différentes, ou des opinions différentes. Mais d'un autre côté, ou alors par exemple, je suis blessé dans ma fierté. Je pense peut-être que je dois être reconnu dans l'Église parce que j'ai tant à offrir. Et les frères et sœurs ne disent pas Amen quand je dis quelque chose. Et on ne me donne pas non plus la position que je voulais. Ça, c'est l'Église. C'est pour ça que l'Église n'est pas l'affaire de n'importe qui. Non. Ce n'est pas un lieu pour notre confort personnel, pour notre confort psychologique personnel. C'est un lieu où Dieu nous traite. D'un côté, il nous donne le repos, le vrai repos. Tu as seulement le vrai repos quand tu es dans ton esprit. Tout le reste, ce ne sont que des illusions. C'est peut-être là pour un court instant, mais il n'y a pas de but. Mais quand nous sommes en esprit, quand tu touches le Seigneur en esprit, alors là, tu as le repos. Quoi que tu sois peut-être bruyant, tu es dans ta voiture, tu conduis et tu invoques le Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus! Tu penses que c'est fou? Oui, c'est fou. L'esprit est parfois fou. Pas toujours, non? Parfois, il est vraiment normal, sobre, mais il est aussi fou dans ce sens. Et je vous dis, si tu n'as jamais été fou, je ne sais pas si tu connais vraiment l'esprit. Paul dit, il a été hors de lui-même. Nous devons vraiment percé jusqu'à l'esprit. C'est vraiment le point central de la vie d'église. Ça commence par là. Regarde, les frères et sœurs à Jérusalem. Au départ, ils étaient tellement peureux, et après, ils étaient comme fous. Les gens ont dit, oh bah, ils sont sous dès le matin. Oui, nous avons pris Christ. Nous avons bu Christ. Le Seigneur doit nous libérer. Parfois, on est tellement gentil ici, on grandit, on est de tels jeunes frères et sœurs, tellement gentils. C'est beau, oui, c'est magnifique. Mais ici, devant, il ne devrait pas seulement y avoir des personnes âgées. Dans la première rangée. Non, les jeunes frères et sœurs doivent s'installer devant, pas attendre derrière, à prendre une distance. Non, rentre, sois en plein centre, tu auras la plus grande bénédiction et exerce ton esprit. Ne rentre pas ici pour regarder simplement. Non, rentre, lève-toi et prie. Et tu seras libéré. Et tout tombe de toi, tout ce qui n'a rien à voir avec le Seigneur. Il nous faut retrouver certaines choses. D'un côté, il nous faut aller devant, de l'avant, laisser certaines choses. Mais d'un autre côté, nous devons retrouver certaines choses, regagner de nouveau certaines choses que nous avons perdues. Demeurer ferme dans un même esprit. Nous ne tenons pas ferme dans une même âme. Non, non. Nous tenons ferme dans un même esprit. Ça doit être clair. C'est la base. Et ensuite, nous combattons d'une même âme. Nous combattons avec une même âme. Ça, c'est le moyen. C'est plus le moi qui est sur le trône et qui décide de ce que je veux aujourd'hui. J'ai envie de quoi aujourd'hui? De quoi? Oui, quels sont mes désirs aujourd'hui? Quels sont mes buts aujourd'hui? Non. C'est l'âme maintenant qui aime se soumettre au Seigneur, qui de plus en plus est transformée par le Seigneur. Et avec cette âme-là, nous pouvons combattre ensemble. Nous la prenons et nous combattons ensemble. Et nous devons tous être participants dans ce combat. Sinon, ce verset n'est pas notre expérience. Combattant d'une même âme. Combattant. J'aimerais bien donner un exemple de l'Ancien Testament. Il y a tant de belles choses desquelles nous pouvons apprendre. En fait, là, c'était une expérience négative, mais dont nous pouvons tous apprendre. Donc, c'est dans 2 Samuel 11. Je lis à 2 Samuel 11 à partir du verset 1. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs. Donc il envoie son général, par exemple, et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabba. Donc, Rabba, c'est une ville. Et maintenant, on en arrive. Mais David, donc, alors que les rois devaient aller à cette époque en campagne, dans le combat, David resta à Jérusalem. Il est resté à la maison, dans son palais. Et il est dit là, un soir, David se leva de sa couche. Donc là, il est dit, c'est au soir. Ouais, il se leva de sa couche. Normalement, on se lève le matin. Notre cher David, dans beaucoup de domaines, notre grand modèle, mais ici, ça a été sa grande défaite. Et comment cela est arrivé? Nous savons tous ce qui s'est passé, ou la majorité d'entre nous. Il faut lire la parole, lisez-la. Mais comment se fait-il qu'il en est arrivé là? Il a mené une belle vie, là, à ce moment-là. Il a tout. Il fait beau aujourd'hui. J'ai assez à boire, à manger. Je pourrais encore voir tel ou tel film. et regarder ceci ou cela. Et ensuite, son regard dépasse, sort du balcon, et là, il l'a vu vers le bas. La convoitise des yeux, la chair, tout est là. Et je vous dis, pour nous, c'est pareil. C'est là aussi. Ne vous trompez pas. Ne pense pas. Je suis parfait. Non, ne dis pas ça. Non, non. C'est pourquoi nous apprenons de David.
Et
un proverbe allemand qui dit Müßiggang. Alors, il y a un mot qui veut dire ne rien faire. Voilà. Voilà. Ou alors, tu attends tout simplement. Tu fais de belles choses. Faire un voyage. Jouer à l'ordinateur. Il y a tant de choses. Ah, aujourd'hui, je vais aller passer sur Internet. Tu peux rester des heures pendant sur Internet et tu n'as rien fait. Tu n'as rien travaillé. Tu as simplement regardé des choses. Müßiggang, donc quand tu ne fais rien, voilà. Il y a tant de choses. Ma femme est au travail. Normalement, on n'a pas le droit d'utiliser le portable, mais les jeunes qui travaillent là-bas sont tout le temps scotchés sur leur portable, la moitié du temps. Nous vivons dans un temps où on se fait détourner. Et Luther a dit, c'est la plus grande des tentations quand il n'y a pas de tentation. Non, l'ennemi ne vient pas. L'ennemi t'a déjà vaincu. Quand toi, tu laisses tout couler comme ça. Seigneur, le Seigneur doit nous montrer quelque chose. Nous devons être actifs dans l'œuvre du Seigneur, tous dans la vie d'Église. Il y a différents services dans la vie d'Église, et tu te dis, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux apporter, comment je peux servir? Je vous dis quelque chose que nous pouvons tous, nous pouvons témoigner du Seigneur. Nous pouvons briller, répandre la lumière de l'Évangile. Chacun de nous peut le faire. Parfois, j'ai déjà pensé, il y a des frères et sœurs qui ont des problèmes dans leur vie, mais ils continuent de proclamer l'Évangile. Et des gens sont sauvés, arrivent à la foi. C'est merveilleux. L'Évangile a une puissance. C'est une puissance de Dieu. C'est une puissance de Dieu qui peut sauver. Et nous avons besoin d'une telle vie que nous tenions ferme dans un même esprit, combattant avec une même âme. Combattant avec une même âme. En nous donnant au Seigneur, nous sommes sauvés. C'est ainsi que nous sommes sauvés. Et nous expérimentons tant. La parole nous dit, il y aura des souffrances. Donne-toi au Seigneur. Tu auras déjà les souffrances. Il y aura un vent contraire. Et tout est un cadeau. Et en fait, il est dit là, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. J'ai déjà raconté ceci à Karlsruhe. Il y avait deux sœurs avec moi. On monte le stand, il y a quelqu'un qui vient. Il était un peu étrange, mais de toute façon, il y a toujours des gens étranges qui viennent. Le monde est plein de personnes étranges. Même au temps de Jésus, c'était le cas. Donc, quelqu'un vient. Après, je pense ne rien avoir dit, et il m'a donné une gifle. Ah, la sœur regarde avec de grands yeux, et moi je me réjouis. Alléluia, que j'ai été considéré comme digne de souffrir pour le Seigneur. C'est merveilleux. Je ne veux pas souffrir parce que j'ai fait des bêtises, mais je veux bien souffrir parce que je vis pour le Seigneur, je vis le Seigneur. Alors là, j'aime souffrir. Et dans ces souffrances, il y a aussi une joie. Donne-toi au Seigneur, dans la vie d'église, pour l'évangile. Tu auras la joie du Seigneur, même si tu te portes mal, mais tu auras la joie du Seigneur. Amen, Seigneur. Nous combattons ce combat. Et j'avais encore un verset, mais je n'en parle pas. Nous n'avons pas tant de temps. Donc cette unité. Et dans Acte 4, on a déjà évoqué ce passage, mais j'aimerais le reprendre. Il s'agit de l'église, de la prière de l'église. Acte 4, 23 et suivant. Je vais seulement prendre un verset, et c'est le verset 29. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Tu les vois, ils se sont tous levés contre le Seigneur, contre ses oints. Tout le monde est contre Christ, le monde visible et invisible, seulement parce que nous, on prêche l'Évangile. Tout se soulève. Les vagues se soulèvent. Il y a un tumulte dans la ville. Mais eux, ils ne disent pas, Seigneur, punis-les. Ils ne disent pas, Seigneur, protège-nous de ces personnes méchantes. Non, ils ne le disent pas. Que disent-ils? Ils disent, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, une pleine hardiesse. Et encore plus fortement, avec une pleine hardiesse. Ou assurance. Frères et sœurs, pour nous, il n'y a pas de retrait dans ce sens-là. Nous sommes des témoins. Nous annonçons l'Évangile. Nous avons vraiment la meilleure bonne nouvelle qui soit. Nous avons le meilleur Évangile, le plus bel Évangile. Et ce n'est pas seulement l'Évangile du salut. Et de temps en temps, j'ai écouté tel ou tel sermon. Aujourd'hui, tu as plein de possibilités d'écouter des choses sur Internet. Et là, tu as plein de jérémiades. J'ai entendu un nom, quelqu'un qui est soi-disant est tellement bon, j'ai écouté. Oui, il y a une bonne. Oui, la personne parle bien, mais tout tourne autour de l'aspect personnel. Comment Dieu, personnellement, bénit ma vie. Mais l'Évangile inclut tout le plan. Sans la vie de l'Église, je n'ai qu'une partie de la vie chrétienne. Quelque chose me manque. Nous avions une sœur à Karlsruhe, peut-être que j'ai le droit de le dire. Pendant plus de 7 ans, elle n'était plus dans les réunions d'église et elle est revenue un jour. Elle est venue à une réunion, elle est toute joyeuse et elle est même restée au repas après. Et ma femme l'a dit, et elle lui a dit, mais dis voir, pourquoi tu es revenue maintenant? Elle a dit, l'église m'a manqué. Elle a été dans différents groupes. Elle a voyagé et elle est revenue. L'église m'a manqué. Frères et sœurs, nous avons besoin d'une telle attitude. L'église est un tel trésor. Elle est tellement précieuse. Christ aime l'Église et s'est donné lui-même pour elle. Ça fait partie de l'Évangile. Nous combattons ce combat ensemble. La prière de l'Église est importante. Oui, viens aussi à la réunion de prière. J'ai déjà vu une personne qui vient à la réunion de prière et attend simplement. Frères et sœurs, je ne voudrais pas seulement attendre quand je viens dans une réunion de prière. N'attends pas. C'est trop dommage de perdre du temps. Ensemble, combattons ce combat. Philippiens 1,
30.
Nous sommes dans ce même combat. le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Et Paul dit, je suis convaincu, persuadé que vous atteindrez le but. Sois actif dans ce combat. Alors, tu es du bon côté. N'attends pas. Donne-toi. Consacre-toi. Il y a encore le chapitre 3, le verset 14. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. Nous avons entendu qu'il existe une récompense. Le Seigneur aimerait nous récompenser. En ce moment, à la maison, nous avons notre fille, son mari et les trois petits-enfants. Et c'est comme il y a 30 ans quand nous avions aussi nos trois enfants. Et je vous dis, les enfants, j'aime leur donner des récompenses quand ils font les choses que je leur demande de faire. On ne veut pas les punir. On veut les récompenser. Ça, c'est le désir. Dieu veut nous récompenser. Alors, il y a des petites étoiles. Qui a eu le plus d'étoiles? Il y a des autocollants comme ça. Ah, si tu fais ça, tu auras une petite étoile. Yeah, ça, je vais le faire, oui. Et Dieu le fait de la même manière avec nous. Il agit de la même manière avec nous. Il y a une récompense. Louez le Seigneur. Je cours pour remporter le but, le prix
Alléluia.
De la vocation céleste. Thessaloniciens 2, on peut le rajouter encore. 1 Thessaloniciens 2. Il s'agit là. Au verset 2, après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, donc Paul va d'une misère dans une autre. Tu veux annoncer l'évangile et tu voudrais être reconnu comme prédicateur. Et alors, il passe d'une prison dans une autre prison. Comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer de l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. C'est un combat. Et néanmoins, c'est notre salut, c'est notre vie. 1 Timothée 6, le verset 12. Donc, là, on a l'aspect individuel. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. Oui, combattre ce combat. Ça veut dire aussi saisir la vie. C'est-à-dire, tu saisis quelque chose de Christ. Tu es au plein dans ce combat. Et ça a aussi à voir quelque chose avec le fait de confesser. 2 Timothée 4, verset 7, il a dit, j'ai combattu le bon combat à la fin de sa vie. Voudrais-tu aussi pouvoir le dire? Moi, j'aimerais pouvoir le dire. J'ai combattu le bon combat. Oui, Seigneur. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Nous sommes là dans une course.
Alléluia.
Alléluia. Et nous nous tenons dans un combat. Et comme il est dit dans Éphésiens 6, ce n'est pas un combat contre la chair et le sang. C'est un combat contre les autorités et les puissances. Et c'est pour ça que nous avons besoin de cette attitude de la prière. Et c'est le Seigneur qui est le vainqueur. Le Seigneur a vaincu l'ennemi. Nous sommes dans sa victoire. Nous nous tenons dans sa victoire. Les messagers, ce sont des messagers de victoire. Et même des messagères de victoire. Même toutes les sœurs sont des évangélistes. Nous sommes des messagers de bonnes nouvelles. De victoire. Après une coupe mondiale, ou avoir les Allemands, comme ils dansent dans les rues, les Allemands dansent dans les rues quand l'équipe a gagné. Et nous, comment nous réjouissons-nous de la victoire du Seigneur qu'il a remportée? Nous devrions être encore plus hors de nous-mêmes, Seigneur Jésus. Amen. Et encore un verset que j'aimerais
nicht vorenthalten. Es ist 2. Timotheus 2,
vous lire Vers. Ja. 2 Timothée 2, le verset 4. 2 Timothée 2, le verset 4. Et le verset 3. Non, on peut commencer devant, tout au début. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Ce qui veut dire que ça doit continuer. Je te l'ai appris à toi, maintenant donne-le à d'autres. Nous donnons le relais aux autres. Nous donnons l'évangile que nous avons reçu. Ça, c'est le caractère de l'évangile. Il doit passer de l'un à l'autre. Et il est dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Un bon soldat. Frères et sœurs, vous êtes tous enrôlés pour aller au combat. Nous ne sommes pas seulement des disciples, mais nous sommes aussi des soldats. Nous appartenons à l'armée du Seigneur. Oui, laisse-toi impressionner par le Seigneur de cela. Et ensuite, il y a le verset en question. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Ça veut dire, nous avons une mission. Nous avons été appelés à accomplir une mission. Et dans tout ce que nous faisons, il nous faut nous occuper de la maison, de la famille. Tu as un travail. Nous vivons dans ce monde. Et néanmoins, nous devons utiliser ce monde comme si nous ne l'utilisions pas. Ce n'est pas notre maison. Ce n'est pas notre chose, non. D'accord, nous devons vivre là-dedans. Même ta famille, c'est pas le sens de la vie. Beaucoup de jeunes gens se marient, ont des enfants, oui, mais ne vous laissez pas ficeler dans les soucis de la vie de tous les jours. Ne perdez pas de vue le but, nous sommes appelés et à combattre. Que tout serve au Seigneur, ta famille, tes enfants. Et comme Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ne perds pas ceci de vue, parce que sinon, tes enfants vont devenir le point central. Et tu n'auras plus le temps pour la communion. Ou alors ça peut être ton travail qui est tellement important. Seigneur Jésus Christ, sois-nous miséricordieux. Nous voulons être dans ce combat. Il y avait un collaborateur de Paul, Démas. Autrefois, on l'a interprété comme s'il allait dans le monde. Mais je ne pense pas qu'il soit allé dans le monde. Il s'est simplement installé quelque part. Il s'est marié, a construit une petite maison, et alors il n'était plus d'ouvrier avec Paul. Même si tu bâtis ta maison, n'y accroche pas ton cœur. N'aimez pas le monde. Ne te laisse pas ficeler dans tout ceci. Pourquoi? Parce que le Seigneur s'occupe de nous. Cherchez d'abord son royaume. Quand nous étions au Liban, cet automne, nous avons parlé du royaume de Dieu. Et j'ai cité ce verset. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Alors, toutes choses vous seront données par-dessus. Tu n'as pas besoin d'être ficelé par autre chose. Non! Si tu donnes-toi pleinement pour son royaume, il s'occupera de toi, il te donnera tout ce dont tu as besoin. Seigneur, sauve-nous de nos soucis, de nos manières de penser et de nos fausses retenues. Non, le Seigneur aimerait nous avoir en tant que disciples, en tant que soldats. Et il nous donne tout. Il pourvoit à tout. C'est un miracle. J'ai vécu tant de miracles dans ma vie. Le Seigneur est fidèle. Amen. Et sur ce chemin aussi, il nous pourvoira de tout ce dont nous avons besoin. Même les évangiles aux disciples, quand ils sont partis, n'emportez rien. sur le trajet. Dépendez pleinement de moi. Quand nous commençons à annoncer l'Évangile, nous vivrons plein de choses. Beaucoup de choses aussi tomberont, des choses qui nous sembleront avoir été tellement importantes auparavant, mais qui étaient en fait un obstacle. Certains ont de bons travaux, un bon travail. C'est pas mauvais. Mais cela ne doit pas être au-dessus du fait d'être un évangéliste, et tu es un combat, tu es un disciple, tu es un membre du corps de Christ. Ne te rends pas malheureux alors que toi-même tu accordes tant d'importance à d'autres choses dans ta vie. Sois libéré, libère-toi de certaines choses. Et donc là, j'aimerais simplement terminer. Je pense que maintenant, donc, il y aura encore des témoignages. Il y a encore du temps pour cela. J'aimerais aussi